Nous commençons maintenant la session des questions et réponses et nous avons démarré ici à Goma. Oui, monsieur, une première question.
Merci pour l'expression, c'est Darrell Maurice pour Electronic Magazine. Et à mon colonel, Serge Hague Béton, où en est-on avec les contingents tanzaniens blessés lors d'une attaque perpétrée par les ZADF à Beni? Est-ce que ces contingents sont toujours internés à l'hôpital?
Oui, merci pour votre question. La question que vous posez est de savoir si les blessés sont toujours gardés dans nos installations sanitaires. Oui, je réponds oui. Les blessés sont là et sont pris en charge par au niveau de l'hôpital niveau 3 de la MONUSCO, ici à Goma. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, ils se portent bien et le suivi est bien pris en compte. Merci.
Une deuxième question ici à Goma. Oui, tout au fond là-bas. Madame, est-ce qu'on peut faire passer le micro assez vite? Merci.
Le son ne passe pas ici à Kinshasa. Est-ce qu'on peut reprendre la question? Le micro toujours n'est pas bon. On peut peut-être changer de micro, je crois. À moins que Florence ne reprenne la question, si elle a compris la question, Florence, s'il vous plaît.
Aziz, est-ce que vous avez entendu la question posée par notre consoeur ici à Goma?
Non, la question n'a pas été bien entendue ici. Est-ce que vous pouvez la reprendre pour nous, Florence?
Est-ce que vous nous entendez à Kinshasa?
Non, pas du tout. Hein.
Non, donc on va attendre que on va revenir à cette question, mais on va continuer, on va reprendre une... Vous êtes de retour, Kinshasa? Non. Une nouvelle question ici à Goma, mais votre question n'est pas oubliée. Dès que la liaison est rétablie, on y répondra. Oui, monsieur.
De la part de Viviane Zabariga pour les côtes de la radio télévision belge francophone TBF. En fait, la question se rapporte autour du rapport des UNHCR. C'est par rapport évidemment au mouvement de population. Selon le rapport, la RDC est montée au créneau sous l'aspect effectivement mondial qui l'occupe près de 4 millions de déplacés enregistrés des mouvements de population. Pourtant, il y a la procédure des fermetures des camps qui est toujours en exergue. N'est-ce pas que ça fait une question paradoxale s'il faudrait qu'il y ait cette procédure des fermetures des camps et qu'il y a un énorme mouvement de population, près de 4 millions. Merci.
Merci. Donc c'est une question qui s'adresse encore une fois à Kinshasa. Kinshasa, est-ce que vous nous entendez?
Oui, on vous entend, mais vous ne semblez pas nous entendre. Là, ça va, le lien est rétabli?
Ça y est, vous êtes revenu. Dans l'ordre, on va avoir d'abord une première question qui était relative aux droits de l'homme. Est-ce que vous l'aviez entendue, cette question?
Non, vous pouvez la reprendre pour nous, peut-être.
Alors la question, c'était sur le rapport et la journaliste voulait avoir une définition précise de... Qu'entend-on par agents de l'État? Exactions commises par des agents de l'État qui sont, dans notre entendement, ces agents de l'État.
Ok. Oui, nous entendons par agents de l'État ce que nous appelons de façon technique les agents d'application de la loi. Tout ce qui est agents rattachés au fonctionnement ou impliqués dans le fonctionnement des services de l'État. En particulier les services de sécurité et les défenses. Et je peux citer, vous, si vous voulez, dans la catégorie d'acteurs que nous dont nous suivons véritablement les actions. Il s'agit des forces armées de la République démocratique du Congo, la PNC, l'Agence nationale de renseignement, évidemment les officiers de la DGM, de la police des frontières, mais d'autres acteurs qui peuvent être des administrateurs locaux qui sont rattachés au service de l'État et qui sont au service de l'État en tant que tel.
Merci Aziz. La deuxième question s'adressait à nos collègues de l'équipe de pays. Yvon, je vois que Simon du HR est là. C'était une question sur le nombre élevé de déplacés et de réfugiés. Je ne sais pas si vous avez entendu la question.
Oui, je l'ai entendu. Alors, je pense que le journaliste mélange deux situations différentes en parlant des personnes déplacées et des fermetures de camps. C'est deux situations totalement différentes. Effectivement, en ce moment, la RDC est le pays africain le plus touché par les personnes déplacées, avec un chiffre de 3,9 millions de personnes à travers tout le pays, mais principalement dans l'est du pays, le Nord Kivu, avec 1 million de personnes, représente à peu près 26% de toute cette population. Et on le cesse de le dire, c'est une situation qui est assez inquiétante, vu que sur toute l'année 2017, ce chiffre n'est allé que crescendo, en raison des violences dans le Kasaï, la situation dans le sud Kivu depuis plusieurs semaines, le nord Kivu qui reste une situation assez instable, et donc chaque de façon quasi quotidienne, nous enregistrons plusieurs centaines de personnes qui sont déplacées à travers le pays. Pour certains, ce sont des déplacements de courte durée, ils peuvent se déplacer le matin et sont de retour chez eux l'après-midi. Pour d'autres, c'est beaucoup plus long terme et c'est ce qui est assez inquiétant. Après, comme je disais, la fermeture des camps de réfugiés, la question est mal formulée, désolé de le dire, mais il n'y a pas de lien entre le fait que le HCR et les autorités congolaises décident de fermer des camps, qui sont souvent des décisions qui ont été prises depuis bien longtemps, et le fait qu'aujourd'hui, on est près de 4 millions de personnes déplacées en RDC.
Nous allons rester à Kinshasa pour une nouvelle question.
Est-ce qu'on a un micro de ce côté? Bon, voilà. On commence par le fond et puis on remonte. Allez-y.
Merci beaucoup. Je me nomme Benoît Kambere Lusumba. Je suis des Échos de la région de Grand Lac et de l'émergence. Je voudrais m'adresser à M. le directeur adjoint de bureau, à M. Aziz, l'occasion faisant le larron, n'est-ce pas? Vous venez de nous donner la situation des droits de l'homme, la situation peu reluisante, je dois dire, du mois de septembre. Et une information que j'ai appréciée, c'est que vous partagez avec 24 ampliateurs cette situation à travers le pays pour voir qu'est-ce qui est fait pour notamment punir les éventuels coupables. C'est depuis, disons, c'est le mois de septembre, c'est-à-dire que vous avez fait ça depuis toujours. Quelle est la situation de suivi de ces éventuels coupables? Est-ce que vous avez un écho? Vous pouvez nous dire quelle est la situation depuis le mois de janvier jusqu'au mois de septembre? Combien de gens ont été arrêtés? Combien ont été traduits en justice? Et qui a été puni? Voilà.
Alors, la période, elle est longue. Hein? La période de janvier à maintenant est une période très longue. Nous avons, je pense, une pratique qui est établie depuis quelques années de faire au moins un bilan semestriel et un bilan annuel. Nous ferons le bilan à l'occasion pour dire concrètement quels sont les progrès qui ont été accomplis en termes de lutte contre l'impunité. Mais merci d'avoir relevé effectivement que ce fait que j'ai mentionné, que les rapports sont communiqués à 24 autorités congolaises pour les aider dans la prise d'action. Parce qu'en définitive, ce qui est important, c'est réellement la prise d'action corrective. L'action peut être administrative, disciplinaire, elle peut être aussi, surtout, judiciaire. La difficulté qu'on a eue pendant quelque temps, et ça fait toujours l'objet de discussions avec les autorités congolaises, c'est le partage d'informations sur les actions que ces autorités-là ont prises. Et c'est ça la grosse difficulté. Nous essayons, dans la mesure du possible, dans le domaine qui relève, nous, de notre responsabilité, à chaque fois que nous recevons des demandes de soutien de la justice militaire, nous les appuyons pour organiser des missions d'enquête conjointe sur le terrain, sur des incidents marquants, ou pour organiser ce qu'ils appellent les audiences foraines. Si le chiffre que j'ai communiqué du nombre de militaires FRDC poursuivis relève de ce travail-là, d'appui à la justice militaire, pour l'accompagner dans la poursuite de certains auteurs qui avaient été identifiés en lien avec des violations des droits de l'homme que nous avons rapportées. Pas seulement des militaires FRDC, ça rapporte quelquefois les poursuites concernent des membres des groupes armés et de certaines milices. Donc tout ce travail-là est effectué par les autorités congolaises. Nous ne nous contentons pas seulement de rapporter des faits, mais nous donnons aussi de l'appui pour que les poursuites qui sont identifiées par les autorités appropriées et que ces mesures-là soient réellement mises en œuvre. Mais à l'occasion, on reviendra pour donner un bilan. Merci.
Merci Aziz. Une autre question depuis Kinshasa, s'il vous plaît.
Oui, je reviens encore pour la même question, Monsieur Aziz, Albert Omba, Numérica TV. Et si vous partagez parfois et régulièrement des infos entre les autorités congolaises et votre bureau des droits de l'homme, pourquoi il y a toujours des réactions un peu plus pas conformes du côté gouvernemental chaque fois que vous publiez ces rapports? Qu'est-ce qui justifie cette réaction assez musclé du côté gouvernemental quand il y a une publication d'un rapport de ce genre?
D'accord. Je dirais que on ne partage pas parfois, nous partageons régulièrement, c'est la pratique. Nous ne publions aucun rapport qui n'ait été au préalable partagé avec les autorités congolaises. Et quand nous recevons des recommandations de leur part ou des observations, si ça porte sur des problèmes liés aux faits que nous avons rapportés, et s'il y a une divergence de vue, nous vérifions et nous réajustons par rapport aux faits. C'est là où il y a une grande différence, c'est l'analyse, c'est dans l'analyse. Si vous avez bien suivi la communication des autorités au cours des derniers mois dans les instances, au niveau des instances internationales, au moins devant le Conseil des droits de l'homme, il y a une reconnaissance des faits. Je vous donne juste un exemple. Nous avons nous communiqué sur le Kasaï en chiffres qui est en deçà de ce que le gouvernement a communiqué. Le gouvernement est largement au-dessus de nous, les chiffres que nous avons communiqués. Là où il y a une différence, c'est l'analyse qui est derrière. C'est l'analyse de ces chiffres-là. À qui on attribue la responsabilité? Nous ne pouvons communiquer que sur les chiffres que nous avons vérifiés, sur la base du standard de vérification que nous avons et qui nous lie, qui est élaboré et accepté et autorisé par le bureau du Haut Commissariat. Donc évidemment, le gouvernement a dans son rôle de réellement réagir, de nier ou de relativiser ce que nous publions, mais sachez effectivement que sur les faits, il n'y a pas de grande divergence. C'est surtout sur l'analyse des faits là où il y a peut-être une divergence de point de vue. Merci.
Merci Aziz. Retour ici à Goma. Monsieur, oui, une question. On fait passer rapidement le micro, s'il vous plaît.
Oui, c'est Norbert Mundulo et je travaille pour le compte du journal L'Emergence. Et ma question, elle est curieuse. Monsieur Aziz, à chaque fois que vous donnez le résultat par rapport aux violences en République démocratique du Congo, le chiffre ne cesse de grimper. Moi, je voudrais savoir, et vous ne cessez également de former ceux que vous appelez agents de l'État ou militaires ou éléments de la police nationale congolaise. Moi, je suis curieux de voir que les chiffres augmentent du jour le jour. Et je me pose la question, ou je vous pose la question de savoir, est-ce que c'est vos formations que vous donner à ces éléments ou ces agents de l'État qui n'arrivent pas justement au destinataire ou soit ces violateurs des droits de l'homme qui n'ont pas la volonté? Et voilà ma question.
Merci. Aziz.
Question pertinente, évidemment, que nous nous posons également et que posent certains de nos... Pas dans le sens, dans le même sens que vous, hein, évidemment, nous ne posons pas la question en termes de réellement pertinence des formations. Mais est-ce que nous avons atteint la masse critique d'individus à former pour réellement arriver à un certain niveau de comportement? Je ne vais pas entrer dans le détail de certains facteurs qui pourraient expliquer le comportement que nous avons sur le terrain et que certains de ces facteurs-là, vous les connaissez mieux que nous-mêmes. Quelle est la structure et le background derrière les éléments, les unités de l'armée congolaise? On ne peut pas dire que toutes les unités de l'armée congolaise se comportent de la même façon, de même qu'on ne pourrait pas dire que toutes les unités de la police nationale se comportent de la même façon. Mais évidemment, il y a des individus qui, à l'intérieur de ces différentes unités, régiments, bataillons, et brigades plutôt, qui véritablement ont des comportements qui ne sont pas conformes aux normes. Les formations, nous les faisons. Évidemment, en accord avec le gouvernement ou à la demande du gouvernement. Donc nous le faisons avec les différentes structures et entités des forces de sécurité et des défenses. Et je peux vous assurer que ça a un impact. Évidemment, l'impact n'est pas visible compte tenu de l'ampleur du phénomène. Mais je ne pense pas que nous puissions remettre en cause véritablement la pertinence de la formation qui est donnée. Vous avez des situations, vous êtes du Nord Kivu, vous savez ce qui se passe dans le Nord Kivu, dans le Grand Nord et dans le du côté du Béni, du côté du territoire de Lubero. C'est une situation qui existe. Ça appelle un certain nombre de réactions de la part des forces de défense et de sécurité. À l'occasion, évidemment, il y a des pillages, des viols sur des personnes qui n'ont rien à voir avec le conflit, et ça, c'est ça qui pose problème. C'est ça que nous déplorons.
Nous restons ici à Goma. Oui, monsieur, vous avez le micro, donc allez-y.
Ah, ok, merci. Je suis Victoire Mouliouave pour la RTGB. Ma question est adressée à vous, madame Florence, c'est presque dans le même angle que celui de mon confrère Norbert. Pas plus tard que deux semaines, la RDC a été retirée de la liste noire, les forces armées de la RDC et les forces de sécurité ont été retirées de la liste noire de l'ONU. Et donc des forces qui sont en train de se mêler dans des exactions. Alors, aujourd'hui, avec le dernier cas en date d'avant-hier où on a assisté à des exactions qui ont été commises à Lubumbashi, lorsque les forces armées, les forces de sécurité ou les forces de l'ordre ont tenté de réprimer les foules, est-ce que c'est évident? C'était évident que les forces de l'ordre soient retirées de cette liste, d'autant plus que c'est maintenant que les exactions s'aggravent. Merci.
Alors, je vais commencer la réponse et Aziz à Kinshasa va me compléter. Nous avons évidemment le fait que la RDC soit retirée de la liste des pays avec pour le recrutement d'enfants, on en avait parlé à cette conférence de presse, et c'était une information que nous avions accueillie favorablement. Donc nous espérons que la tendance va pouvoir être maintenue. En ce qui concerne les violations, vous y avez fait référence, ce qui s'est passé à Lubumbashi lundi, mais les jours précédents, aussi les semaines précédentes, nous assistons, comme vous l'avez observé vous-même, à une répétition, une suite d'atteintes aux libertés fondamentales. Cela nous préoccupe car ces atteintes aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, sont contraires à l'esprit de dialogue et de consensus qui doivent conduire ce pays vers des élections. Et comme vous le savez, l'objectif de cette mission, de la MONUSCO, est de faciliter la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre afin de pouvoir conduire le pays vers des élections. Et donc, nous notons avec inquiétude que la tendance actuelle, malheureusement, va dans un sens opposé. Mais Aziz à Kinshasa va sans doute pouvoir compléter la réponse.
Tout à fait. Merci Florence. Le delisting, le fait que les FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, aient été réellement enlevées de la liste des pays ou des forces de sécurité des pays en ce qui concerne le recrutement d'enfants dans le cadre des conflits armés, procède un peu d'un point de l'analyse de situation sur la base du plan d'action qui a été convenu et mis en place par la hiérarchie militaire ici en RDC avec l'appui de la MONUSCO. Il y a un plan d'action, vous n'avez pas suivi depuis quelques années, qui était en train d'être mis en œuvre avec des engagements clairs et précis, avec un échéancier bien établi. Évidemment, la décision qui a été prise procède de l'analyse de situation et des progrès, l'appréciation des progrès qui ont été accomplis dans la lutte contre le recrutement d'enfants. Je voudrais juste rappeler que c'est évidemment un résultat, un succès qu'il faut mettre au crédit des FARDC et des autorités de la République congolaise, hein, de façon très claire. Et je crois que le fait, Madame la représentante personnelle du chef de l'État qui est en charge des questions de recrutement d'enfants et de violences sexuelles a fait du bon travail. Ça, il faut le reconnaître. Je crois que il y a du travail qui est en train d'être fait et c'est ce qui a abouti au delisting. Mais ça n'a rien à voir avec les autres questions, les autres préoccupations que nous avons et tenant de façon beaucoup plus globale à la situation des droits de l'homme où il y a des réelles inquiétudes. Florence en a parlé. Il y a des restrictions de l'espace démocratique, les libertés de manifester pacifiquement, les libertés de réunion. On a vu des restrictions et des limitations ou des tentatives d'intimidation pour des réunions qui ont eu lieu la semaine dernière et jusqu'à hier ou avant-hier dans des endroits privés en réalité, ce qui pose véritablement problème. On sait qu'il y a une mesure d'interdiction de manifester sur la voie publique, mais on ne peut pas, même s'il y a des interrogations sur cette mesure qui ne peut être, qui est illimitée dans le temps et s'étend à l'ensemble du territoire, nous n'allons pas en parler maintenant. Mais la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas interdire à des individus de se réunir dans une salle ou dans les locaux de leur parti ou de leur association. Ceci est contraire à la loi, ceci est contraire à la constitution de la République démocratique du Congo et aux engagements internationaux souscrits par le pays.
Nous restons à Kinshasa avec une question, s'il vous plaît.
Alors, on va donner le micro à la dame, s'il vous plaît. Ensuite, on va remonter.
Renate Massonda pour Raga Télévision. Monsieur Aziz, avez-vous un bilan de violations qui ont été commises à Lubumbashi? Et si vous suivez ces dossiers de près?
Vous voulez parler des
manifestations? Lors de l'arrivée du secrétaire général adjoint de l'UDPS.
L'UDPS, ok. Alors, en rapport, jusqu'à hier, nous avions environ 32 personnes. Le chiffre était un peu plus... On a eu des variations sur les chiffres, je sais que vous avez suivi. Jusqu'à hier, il y avait 32 personnes qui étaient en détention, qui ont été libérées ce matin. Les 32 personnes qui avaient été arrêtées et transférées au parquet ont été libérées ce matin. Ont été mises en liberté provisoire, disons. Donc, c'est la nouvelle que je peux vous... Ce sont les chiffres que je peux partager avec vous.
Merci. Nous revenons ici à Goma. Une question. Oui, monsieur. Faisons vite. Les minutes passent très vite.
Oui, merci beaucoup. C'est Guilhem Baloumé pour Zoom TV et VOA News. Ma question s'adresse à monsieur Abdulaziz Choy. En fait... Malgré toutes ces exactions des droits de l'homme, la RDC a quand même figuré dans les conseils des droits de l'homme de l'ONU. Alors, je voulais juste savoir, est-ce que le fait que la RDC soit figurée dans ces conseils des droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas une façon de se moquer de la population congolaise? Merci.
C'est vous qui le dites, pas moi. Ce que je dis simplement que je constate que ça ne vous a pas échappé que la RDC a été quand même, il faut le dire, démocratiquement élue, parce que c'était une élection par les États membres, donc démocratiquement élus au niveau de l'Assemblée générale. Donc voilà, les États membres ont décidé d'élire la RDC comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette élection, nous espérons véritablement qu'elle va jouer un rôle catalyseur pour un meilleur respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le pays a pris souscrit à des engagements et ces engagements deviennent beaucoup plus affirmés avec son élection, à travers son élection au Conseil des droits de l'homme. Devenir un État membre du Conseil des droits de l'homme implique également des devoirs. C'est ça que je voudrais surtout souligner. Et les États élus se doivent d'observer les normes les plus strictes en matière de promotion et de défense des droits de l'homme, de coopérer pleinement avec le Conseil et sont soumis à l'examen périodique universel que vous connaissez au cours de leur mandat. Ce sont plutôt des éléments intéressants. Enfin, il convient de rappeler que l'élection n'est pas humiliable. Ce n'est pas un satisfecit qui est décerné à un État. Je voudrais juste vous rappeler qu'il est possible qu'un État puisse être suspendu. La Libye est là. La Libye a été suspendue. Quand il y a eu une détérioration générale de la situation, l'Assemblée générale a voté et décidé de suspendre la participation de la Libye comme membre du Conseil des droits de l'homme. C'est la réponse que je peux vous apporter. Merci.
Une autre question à Kinshasa.
Une autre question à Kinshasa. Nous avons... Il y a la bataille pour le micro à Kinshasa.
Allez. Oloume, RTNC2 Développement. Florence Marchal, une question de curiosité. Le secrétaire général de l'ONU séjourne en RCA depuis hier mardi. Il fera 4 jours dans ce pays voisin de la RDC. Florence, est-ce que la MONUSCO a-t-elle fait le plaidoyer pour qu'Antonio Guterres fasse un tour d'inspection dans le camp de réfugiés centrafricains se trouvant en RDC pour voir les dures réalités de ces déplacés et pour avoir une idée par rapport à cela? Est-ce que ce n'est pas dans son agenda?
Alors, la visite est à la MINUSCA. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, le secrétaire général a choisi de célébrer la journée des Nations Unies dans une mission de maintien de la paix, donc une mission dans un pays voisin, la République centrafricaine. La mission est limitée dans un territoire géographique qui est celui de la République centrafricaine. Et donc, il ne viendra pas en République démocratique du Congo, mais bien évidemment, on peut imaginer qu'il va recevoir des briefings sur la situation des réfugiés et des déplacés qui sont également nombreux en République centrafricaine. Nous revenons ici à Goma pour une nouvelle question. Oui, madame.
Moi, c'est Brigitte Makuta, correspondante des antennes A. Est-ce que monsieur qui nous a parlé de la polio, il dit 0% polio, et pourtant de l'autre côté, la malaria aussi tue à petit feu. Quand est-ce qu'on va réduire aussi la malaria à 0%? Merci.
Yvon.
C'est une bonne question. En fait, il y a de nombreuses maladies en fait font l'objet de plans soit quinquennal, soit sur 3 ans, soit sur 10 ans. Je sais que la malaria en fait partie, le choléra aussi. Voilà, évidemment, là tout à l'heure ce matin on parlait de mariages des enfants. Donc voilà, on l'a pas mentionné ce matin, mais ça ne veut pas dire que la malaria est oubliée. Loin de là, le pays est endémique à cette maladie, comme elle est aussi endémique au choléra et à bien d'autres maladies qui sévissent depuis de nombreuses années.
Une dernière question ici à Goma. Oui, monsieur.
Oui, c'est Bernard Mastaki pour le compte de la Pyrénées de la conférence épiscopale. Ma question est de savoir,
l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sera en RDC très bientôt. Quel peut être son agenda sur le plan de la mission et sur le plan de la République démocratique du Congo, j'ai dit.
Alors, je vous conseille de vous vous rapprocher de l'ambassade des États-Unis pour avoir une idée plus précise de son agenda, mais je peux vous confirmer que des rencontres sont prévues avec des responsables de la MONUSCO ainsi que d'autres responsables. Mais pour le détail, il faut s'adresser aux États-Unis d'Amérique. Voilà, donc une annonce pour clore cette conférence de presse. Notre prochain rendez-vous aura lieu le 8 novembre et non pas mercredi prochain, qui est un jour férié pour les Nations Unies. Donc nous allons nous retrouver dans 2 semaines et je voudrais aussi dire merci à Charles Bambara, le directeur de la communication stratégique et de l'information publique, qui a facilité aujourd'hui la conférence depuis Kinshasa. Donc merci ici à Goma, merci Kinshasa et bonne journée et à dans 2 semaines. The way I make it drop, running like an animation. You can't say.